Ray Lalonde qui est là. Salut Ray.
Salut Jérémy.
Ray, écoute, il y a beaucoup d'attentes pour les villes bulles de la Ligue nationale de hockey, mais on se rend compte d'une chose, c'est que au-delà des villes bulles, il y a de grosses négociations présentement entre l'Association des joueurs et la Ligue nationale de hockey. Et c'est pour ça que ça retarde le fait de nommer les villes potentielles pour accueillir les séries éliminatoires de la Ligue nationale.
Oui, c'est certain que c'est un facteur, Jérémy. Tu l'as vu au baseball, les négociations entre l'Association des joueurs et les propriétaires dirigeants du baseball majeur mené par Rob Manfred ont été longues, ont été pénibles, ont été vraiment difficiles et presque inexplicables. Bon, on a réglé à la fin, tu sais, mais le baseball avait fait une entente le 26 mars dernier qui était un peu, certainement en avance sur les autres ligues. C'était une entente qui était par rapport au coronavirus et le retour au jeu éventuel, puis des conditions qui avaient été mises en place. Je trouvais que c'était très progressif de leur part. Mais là, ça a changé parce que on a réalisé après quelques mois que c'était particulièrement difficile de penser qu'il y aurait des gens dans les gradins qui achèteraient des billets. Donc, il fallait refaire la négociation. Et ça a été pénible la deuxième fois. On n'a pas entendu parler de ça au hockey ou au basketball. Et la raison, c'est que on a attendu jusqu'au dernier moment pour arriver avec une formule ayant les meilleures chances d'un retour au jeu, c'est-à-dire la bulle pour le basketball dans une seule ville, à Orlando, à Walt Disney, et au hockey dans deux villes qui restent à être déterminées. Mais parmi les points qui restent encore, malgré le fait qu'on connaît la date des camps d'entraînement le 10 juillet, puis qu'on sait que ça va reprendre à la fin juillet directement en séries éliminatoires, si on veut, avec 24 équipes, mais les joueurs doivent voter pour approuver cette entente-là, ce retour au jeu-là, ce protocole avec tous les éléments qui vont traiter le dossier de santé, sécurité, l'aspect médical, l'aspect des contingences, puis l'aspect des revenus. Bon, les joueurs veulent profiter de ça, Jérémy, pour négocier un paquet de choses en même temps. Pourquoi pas? Parce que c'est vraiment important, c'est critique, non seulement pour les propriétaires, pour les joueurs, mais pour l'industrie du hockey, là. Alors, tout le monde a les oreilles ouvertes pour vraiment entamer de bonne foi des négociations. Donc, des sujets comme les Jeux olympiques de Beijing ou de Pékin en 2022, la convention collective, peut-être la renouveler plus tôt, au lieu d'attendre l'échéancier, le partage des revenus pour cette année, ce qui va se faire en somme d'argent récupéré par les réseaux de télé, par exemple, et les commanditaires, et l'autonomie. C'est-à-dire l'autonomie qui aurait en principe commencé le 1er juillet, c'est-à-dire demain. Mais là, c'est sûr que ça ne commencera pas demain. Là. On a retardé tout ce qui était sur le calendrier, à part la loterie, là, il y a une semaine.
Presque. Mais il y a des bonus à la signature qui auraient dû être versés, qui devront, si on n'arrive pas à s'entendre, être versés à partir de demain. Je lisais un peu plus tôt, j'en ai parlé, je lisais Louis-Jean de TVA Sports qui parlait de 450 millions de dollars que les propriétaires doivent verser à différents joueurs pour des bonus de signature. On doit trouver un terrain d'entente là, pour s'assurer que ça soit à la limite reporté.
Oui, bien ça va être reporté, c'est sûr. Il n'y a pas personne qui a la réponse à ça. Ça fait partie des négociations. Tu sais, Gary Bettman et Donald Fear ont une bonne relation. C'est peut-être la deuxième des excellentes relations entre commissaire de ligue et responsable directeur exécutif d'une association des joueurs. Baseball étant quatrième, football troisième, hockey deuxième. Puis celle d'Adam Silver avec Michelle Roberts, c'est peut-être la plus fructueuse, si on veut, comme relation entre deux parties qui sont vraiment partenaires. Bon, alors, le 450 millions en boni de signature, là, ça, c'est de l'argent sur lequel les joueurs comptaient. Mais les joueurs comptaient sur des revenus cette année pour la fin de la saison, les salaires. Ils comptaient sur une autonomie et de nouvelles signatures, des joueurs libres qui pouvaient changer d'équipe, la période de transaction qui allait reprendre aussi bientôt. Bon, les équipes, les propriétaires comptaient sur les revenus des séries, la fin de la saison, les droits télé, les droits de commandite. Écoute, c'est beaucoup d'argent. On en a déjà parlé à plusieurs reprises. T'sais, si la Ligue nationale revient sur une perte possible de 1,2 milliard s'il y avait tout annulé, ils vont peut-être être capables d'en récupérer 400-500 millions avec les séries, si tout se passe bien. Donc là, il faut forcément qu'on refasse la formule mathématique. Jérémy, les joueurs vont être affectés, c'est sûr. C'est sûr que les joueurs ne pourront pas compter sur 450 millions en boni de signature que ce soit maintenant ou plus tard.
OK. Si je comprends bien ce que tu me dis, c'est que la Ligue nationale, les proprios veulent faire ces séries de fin de saison pour aller chercher un 500 millions pour éponger le déficit potentiel en raison de la pandémie. Et de l'autre côté, les joueurs, eux, sont peut-être pas très, très favorables à mettre leur santé à risque, mais ils disent, si tu veux qu'on aille là, on va réouvrir la convention collective. Vous allez accepter des choses qui nous étaient refusées jusqu'à présent, c'est-à-dire les Olympiques, la fiducie, le plafond salarial. On profite de cette occasion pour faire quoi? Voilà. Un addendum à la convention collective?
Ouais, ben, ça va prendre un addendum de toute façon pour l'aspect d'autonomie puis des bonus de signature, parce que ça, c'était quand même de l'argent qui était entendu là, contractuellement, qu'il va falloir qu'on renégocie comment et sous quelle forme ça va se payer. Bon, ça, c'est une chose. Mais les joueurs profitent de l'occasion pour tout lancer dans la négociation tant qu'à y être. Et on sait que ça arrive là, à échéance, parce que, en principe, demain, c'est le retour au jeu en camp d'entraînement pour les équipes de baseball. Les joueurs doivent se rapporter à leur équipe demain, le 1er juillet. Mais le hockey, c'est le 10 juillet. C'est pas bien ben plus loin, Jérémy. Là. Ça veut dire que, tu sais, qu'ils soient dans une ville ou une autre, là, quand ils vont décider quelles sont les deux villes finalistes pour accueillir, mettons, 12 équipes d'un côté, 12 équipes de l'autre, bien là, il va falloir que le 10 juillet, les équipes, les joueurs savent aller. Bon, est-ce que ça va passer par leur ville respective? Fort probablement pour leur camp d'entraînement. C'est-à-dire que, comme ici à Montréal, c'est la probabilité que les joueurs des Canadiens se réunissent ici, s'entraînent pendant quelques semaines ensemble, avant de se diriger vers la ville qui va accueillir les matchs. Alors, mais entre tout ça, il y a plein de choses qui vont se négocier. Et, Jérémy, t'as touché un petit point, là. Je ne suis pas certain que tous les joueurs sont convaincus, emballés avec l'idée du retour au jeu. On voit des joueurs dans toutes les ligues sportives qui se retirent, qui lèvent la main en disant « Écoute, de façon facultative, je préfère rester chez nous. J'ai eu le virus ou je suis atteint et j'ai testé positivement. » Ou des gens de ma famille proche, « Je suis un peu inquiet, j'ai beaucoup de jeunes enfants. Je suis dans un secteur qui est fort contaminé. » Et toutes les raisons sont bonnes. Il faut respecter le choix des joueurs parce que les ligues ont fait attention pour être sûr qu'il y avait d'excellentes conditions sur place, mais aussi une certaine forme de protection où les joueurs ne seraient pas isolés ou discriminés contre si jamais ils décidaient de ne pas participer. On en a vu déjà 3-4 au baseball, 3-4 dans la NBA, puis on n'est pas encore rendu aux dates, là. Et de plus en plus, il y a des cas positifs, puis il y a des joueurs qui décident de rester à la maison.
Sauf que du côté de la Ligue nationale de hockey, comme on l'a peut-être fait avec le baseball, mais encore plus avec la Ligue nationale de hockey, si on prolonge la convention collective, je dis pas qu'on va les prendre en otage, mais on va leur dire « Parfait, tu veux qu'on négocie, mais viens jouer. Et si tu viens pas jouer, ben là, ta négociation que tu vas avoir, ben on pourra pas l'avoir malheureusement. »
Oui et non, Jérémy. Je dirais que c'est sûr que les propriétaires vont concéder quelque chose, mais ils vont exiger une certaine forme de retour dans leur investissement. Mais je ne suis pas certain que ce soit la santé des joueurs. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que si tous les joueurs lèvent la main et disent « On rentre chez nous », là, ça ne va pas marcher. Mais s'il y a des cas isolés qui décident « Regarde, j'ai un problème de santé, je suis en réhabilitation de toute façon, ou j'ai testé positif, je suis un peu nerveux, ou ma femme, peu importe. » Ça, je pense que ce sont des raisons que Gary Bettman et les propriétaires ne vont pas insister. C'est normal qu'il y ait des joueurs dans chacune des équipes qui soit ont contracté le virus ou soit décident de rester à la maison. C'est pour ça que les effectifs, là, les alignements, en anglais le roster de chaque équipe, est beaucoup plus haut, beaucoup plus élevé qu'en saison régulière. Pourquoi? Pour justement se protéger contre des absences ou même contre des joueurs qui testeraient positifs au cours des matchs qui restent à jouer.
Bon, maintenant, je veux qu'on prenne quelques instants. Tu as regardé cette fameuse loterie de la Ligue nationale de hockey. À la surprise générale, c'est un club qui fait partie du tour de qualification qui obtiendra le premier choix au total. Et là, la question se lance. Selon toi, Ray, la Ligue nationale de hockey veut voir Lafrenière dans quel type de marché? Question de bien profiter de l'ampleur du premier choix au prochain repêchage.
C'est une excellente question. Quelqu'un m'a posé cette question-là aujourd'hui là, sur mon compte Twitter. Puis, honnêtement, là, c'est un enjeu important. Si on regarde dans l'histoire, pourquoi il y a un repêchage et que les derniers choisissent les premiers? C'est pour forcément favoriser les derniers à s'améliorer. C'est pour leur donner un coup de main. Donc logiquement, on voudrait qu'un Alexis Lafrenière, qui malheureusement ne sera pas à Ottawa, a fui ou échappé des mains des Red Wings de Détroit, les derniers de la Ligue cette année, là. Alors, ce ne sont pas ces équipes-là là, qui vont pouvoir en profiter. Ce sont les équipes, littéralement, là, qui sont entre le 24e rang, actuellement détenue par les Canadiens, jusque des équipes comme Columbus, Winnipeg, Calgary, Toronto, là, qui sont parmi les moins bons de ceux qualifiés, les meilleurs de ceux qualifiés. Ça veut dire que lui, il va se retrouver avec une équipe qui peut être déjà forcément établie comme possiblement un aspirant. Là, je pense à des clubs comme Pittsburgh ou Toronto, ou les Flames de Calgary, des bonnes équipes. Mais il pourrait, au pire, se retrouver dans des équipes qui ont fait la coupure des 24, Rangers, Blackhawks, Canadiens, par exemple. Et c'est déjà mieux que de se retrouver, pour lui, avec une équipe comme Détroit ou Ottawa. Mais qu'est-ce que le hockey a besoin? T'sais, si Gary Bettman avait à choisir, on ne peut pas penser pour Bettman. Bettman, de toute façon, honnêtement, là, son choix personnel, c'est comme dire à quelle sorte de café il prend le matin. Ça, on n'a aucune raison de pouvoir spéculer là-dessus. Mais si lui regarde l'ensemble de l'œuvre, moi, je pense honnêtement qu'un joueur comme Lafrenière qui tombe dans une bonne équipe va avoir plus de visibilité, va gagner plus de matchs, va participer aux séries, pourrait remporter la Coupe Stanley à un jeune âge et pourrait être la prochaine star, le prochain visage du hockey dans la lignée de Crosby, Ovechkin, McDavid. Tu sais, j'en saute quelques-uns, là, mais c'est un joueur générationnel. Puis si tu le mets dans une bonne équipe plus vite, il va être encore plus retentissant, il va être encore plus vu et suivi et apprécié. Et il y a un élément très positif à ça. Ce que c'est, ça va à l'encontre de la parité, Jérémy. Fait que l'espèce d'idée qu'on veut égaliser vers le bas, bien, c'est sûr que s'il tombe dans une équipe comme les Coyotes, les Blackhawks, les Rangers ou les Canadiens, des équipes plus faibles, ou même s'il avait tombé avec les Red Wings ou les Sénateurs, ça aurait pris plus de temps pour rebâtir. Mais Dieu sait que ces équipes-là en ont plus besoin. Mais imagine lui tomber à Edmonton avec Connor McDavid, ou tomber avec les Penguins de Pittsburgh avec Sidney Crosby.
À Toronto, ouf. Toronto, écoute.
Toronto, là. Avec la jeune équipe de talent qu'ils ont. Ça, c'est pas une mauvaise chose, tu comprends? Pour la popularité totale du hockey, puis l'espèce de pénétration dans le marché mondial du sport que le hockey pourrait avoir avec un duo, par exemple, Crosby et Lafrenière. Ça serait extraordinaire.
Moi, je veux juste pas, sincèrement, là, c'est un vœu, vœu pieux, parce que j'ai zéro contrôle là-dessus, mais de voir un Lafrenière aboutir avec l'Arizona, pour moi, ça serait un gâchis total. Tu sais, la franchise elle joue bien, c'est du bon hockey présentement, mais le marché est... C'est un marché moribond. Ça fonctionne par moment, ça fonctionne pas par d'autres moments, on sait pas, ça change de propriétaire. J'aimerais ça le voir dans un marché établi, question, comme tu le mentionnes, de le voir gagner, et ce, rapidement.
Oui, mais ça, c'est un excellent point. Mais, tu sais, Gary Bettman, Bill Daly, ces gars-là, c'est eux les défenseurs des Coyotes de l'Arizona ou des Hurricanes de la Caroline ou des Panthers de la Floride. Alors, ils doivent y voir, tu comprends-tu? Alors, c'est certain qu'ils seraient perdus un peu en forêt là, parmi ces équipes-là. Pas trop visibles. Tu sais, moins vus à NBC aux États-Unis. Et pourtant, ça, c'est le prochain ambassadeur. On est tous d'accord avec ça. Mettons nos émotions de côté par rapport à notre équipe préférée. Pensons à l'ensemble de l'œuvre. S'ils se retrouvent avec une équipe comme les Blackhawks, tu sais, ou les Oilers, ou les Maple Leafs, dans le marché de Toronto, imagine l'impact, la visibilité, la commercialisation, l'exploitation d'Alexis Lafrenière comme joueur de hockey vedette. Ce serait extraordinaire pour le hockey. Le hockey en bénéficie. Mais les équipes faibles font partie du hockey aussi. Et on a besoin de ces équipes-là, même dans des régions moribondes, comme l'Arizona, pour faire une ligue nationale. Sinon, ça devient une ligue régionale. Donc, tu sais, c'est difficile. Si on se prononce juste là avec nos réactions là, à vif, là, c'est sûr que moi, j'aimerais se voir, honnêtement, là, j'aimerais ça le voir avec les Rangers de New York. Parce que, tu sais, ça pourrait être une star qui pourrait aider les Rangers à supplanter les Knicks, à rentrer encore dans le rang. Et c'est l'équipe dans le marché numéro un média au monde. Alors, Dieu sait qu'est-ce qui pourrait se passer avec Lafrenière, avec les Rangers, par exemple. Mais, tu sais, à quelque part, il ne faut pas négliger non plus que les autres équipes font partie des 31.
Bon, mais écoute, tant qu'à faire, tu prêches pour le marketing des Rangers, je vais prêcher pour le Canadien. Je l'imagine dans un milieu comme le Canadien de Montréal, s'il est capable de connaître du succès, évidemment, peut-être pas aussi rapidement que dans une grande formation, mais mon Dieu Seigneur, j'ai l'impression qu'on attend ça. Écoute, c'est comme le Messi, là.
Ben, prenons 30 secondes pour parler de ça avec les Canadiens. C'est certain que les Canadiens font partie des grandes organisations, font partie des grands marchés de hockey. Et effectivement, la plus grande équipe de toute l'histoire du hockey avec 24 Coupes Stanley en 110 ans. Bon, cependant, il y a quelques facteurs de plus qui doivent être considérés là, avant de le voir arriver avec une équipe comme Montréal, puis s'épanouir. de la même façon qu'ils pourraient s'épanouir dans d'autres régions. Puis ça, c'est pas une critique, là, c'est pas, je pointe pas du doigt. Ce que je veux dire, c'est que beaucoup de pression pour un joueur québécois francophone d'un très jeune âge, quel qu'il soit, sur les épaules. Je me rappelle très bien de l'arrivée de Guy Lafleur, le sauveur, un des grands du hockey. Les trois premières années de Guy, 71, 72, 73, dans ce coin-là, ça n'a pas été facile pour lui de pouvoir s'exprimer librement, malgré le fait qu'il avait marqué, mettons, 130 buts à une de ses saisons avec les Remparts de Québec dans le junior majeur. T'sais. Bon, il a surmonté tout ça. Il est devenu une légende du hockey. La probabilité, c'est que Lafrenière devienne aussi une légende du hockey. Mais il y a une chose qui est claire, c'est qu'il y a des marchés, puis il y en a plusieurs. Les Canadiens font partie de ceux-là. Chicago, toutes les équipes originales, de toute façon, ont cette culture de hockey profonde dans le marché qui pourrait faire en sorte que Lafrenière pourrait être extraordinairement populaire.
Et combien sympathique en tribune téléphonique. Oh, que ça ferait des belles lignes ouvertes. Ça, c'est sûr et certain. Ouais. Bon, hey, Rich, je veux qu'on parle de la NBA maintenant. La NBA a dit que les messages de support contre le racisme seront autorisés à Orlando sous différentes façons. C'est une décision facile à prendre pour la NBA, selon toi?
Ah oui, absolument, parce que de toute façon, comme je t'ai mentionné plus tôt, le partenariat qui existe entre les joueurs et Adam Silver, c'est littéralement fraternel. Et là, j'exagère pas, là. Les gars adorent Adam Silver. Chris Paul, qui est le vice-président de l'exécutif de la NBA, là, comme joueur, là, c'est le représentant de tous les joueurs. C'est un joueur que lui a une relation très, très proche avec Adam Silver. Les gars se parlent constamment sur comment la NBA peut faire la différence. Alors, d'abord, sur les terrains à Orlando, Black Lives Matter, ça va être inscrit sur les lignes de côté. Deuxièmement, on est en train d'étudier la possibilité avec Nike pour que les maillots des joueurs, les chandails, là, utilisés pendant les matchs aux couleurs des équipes, porteraient à l'arrière une déclaration ou un statement de chacun des joueurs par rapport à l'injustice sociale. Celle de leur choix. Évidemment, approuvé par la Ligue. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y aura pas de message bidon, là, mais des messages sérieux au lieu d'avoir le nom de famille. On a déjà mis les surnoms des joueurs. Mm-hmm. Tu sais, des nicknames, comme on dit en anglais, là, comme King James au lieu de LeBron James, par exemple. On a déjà fait ça pour certains matchs et Nike a joué le jeu. Les chandails ont été fabriqués, ils ont été vendus de façon très populaire. Mais là, on parle de mettre une déclaration sur le combat, l'effort contre le racisme et l'injustice sociale et les inégalités aux États-Unis. Puis les joueurs de la NBA sont tous des porte-parole. La Ligue est majoritairement afro-américaine et ça joue un rôle là-dedans. Puis Adam Silver travaille de très près pour toujours être à l'écoute. Je rappelle aux gens qui se rappellent du mois d'octobre dernier, l'incident avec la Chine. Adam Silver n'a pas baissé les bras devant la Chine. Ce n'était pas Adam Silver contre le commissaire de la Ligue en Chine. C'était contre la Chine. Et puis, il a simplement pris ses bagages, puis ils ont joué leurs deux matchs, puis ils ont quitté vers les États-Unis. Mais ils n'ont pas plié les genoux face à ce conflit sociopolitique, sportif. Alors, cette fois-ci, on reconnaît encore une fois que la NBA a toujours des allures un peu plus progressives. J'apprécie ça et j'espère que les autres ligues sont à l'écoute pour permettre aux joueurs, par exemple, de s'agenouiller avant les hymnes nationaux, durant les hymnes nationaux, pour pouvoir montrer leur couleur et leur cause et supporter publiquement. C'est bon pour l'influence que les athlètes ont dans le monde entier, dans tous les sports, et les joueurs de hockey devraient faire de même. Je pense que certains l'ont fait. On en a vu plusieurs participer aux manifestations lors des dernières semaines.
Oui, puis peut-être un point à ajouter, c'est que ce que tu vois du côté de la NFL, tu ne vois pas du côté de la NBA. Et je m'explique, tu ne vois pas le président Donald Trump s'immiscer dans ce qui se passe du côté de la NFL. Il ne fait pas ça avec la NBA. Il ne s'immisce pas là-dedans. Ils sont autonomes. Il n'y a personne qui vient leur dire quoi faire et que les propriétaires ne devraient pas engager tel type de joueur parce qu'ils manifestent pendant l'hymne national. Ils sont autonomes, la NBA.
Oui, tu as vu juste là-dessus, Jérémy. Puis il y a deux raisons. Fondamentalement, Donald Trump sait très bien que une portion des fans de la NFL dans les stades sont, mettons, plus conservateurs et parfois républicains et qui font en sorte que c'est un autre type de culture de fanatisme, la NFL versus la NBA. Et la NFL n'a pas le même leadership, malgré le fait que Roger Goodell a fait une réussite économique extraordinaire avec le produit. Lui a eu des difficultés à gérer le bateau sur les comportements des joueurs, les comportements des propriétaires, en particulier les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Tandis que Adam Silver a géré d'une main de fer, puis je ne pense pas que Trump veut se confronter à Adam Silver, et surtout parce que les joueurs de la NBA, dont LeBron James, par exemple, et des entraîneurs comme Steve Kerr et Greg Popovich, se prononcent instantanément contre Donald Trump. Il n'y a même pas d'hésitation. Alors lui, il sait qu'il est une persona non grata certainement pas invité à participer aux discussions autour de la NBA. Donc, il se tient très loin de ça.
Bon, ben Ray, c'est déjà tout le temps qu'on a. On se reparlera jeudi. D'ici ce temps-là, assurément, il y aura des nouvelles. La Ligue nationale de hockey sera peut-être arrivée à une conclusion et ça sera très plaisant d'avoir la chance d'analyser tout ça avec toi. Ray Lalonde, toujours un plaisir. Merci d'avoir été avec nous.
Salut, Jérémy. Bonne soirée.